Ça, désolé, on avance. Bon, alors, j'ai un parcours un peu particulier, surtout pour quelqu'un en France. Ça veut dire que j'ai fait des choses dans la recherche, dans l'industrie, j'ai fait logiciel, j'ai fait plein de choses. Alors, j'ai commencé comme psychologue expérimentale. Et en fait, l'idée, c'est de m'enseigner aux singes comment communiquer. Alors, ça, c'est un peu différent, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de jobs dans ce domaine, surtout dans les années 70. Et j'ai trouvé un job, j'étais en train de faire ma thèse et j'ai posé pour un petit peu de temps à une entreprise qui s'appelle Digital Equipment Corporation. Et j'avais vraiment tombé dans le bon moment parce que c'est le moment où on a créé un système qui s'appelle IBIS, je vais expliquer bientôt. Mais c'était le premier système commercial avec la vidéo sur mon ordinateur. Et vraiment, c'était mon expérience avec l'enseignement, mais apprentissage. Pas l'enseignement, mais apprentissage, qui était très intéressant par rapport à créer les systèmes pour enseigner les gens là-bas. Et après, j'ai décidé qu'il faut continuer avec les ordinateurs. Juste une chose. À la fac, j'ai pris un cours informatique et j'ai appris comment programmer des choses, comment coder un truc avec les cartes, avec les trous, vraiment, ça fait longtemps. Et je me souviens, on a fait des séries de Fibonacci et c'est tout ça. À la fin, j'ai dit, je ne vais jamais toucher l'ordinateur de ma vie, jamais. Et c'était quand j'étais dans la situation, dans un laboratoire de psychologie avec les singes, les pigeons, les êtres humains aussi. Et il faut construire un système interactif et aussi avec les données qui arrivent, qui sont dans une petite urbain avec les petits points, tout le monde, tous mes collègues, tous les autres thésards étaient en train de compter les petits trous. Et il y avait un ordinateur à côté. Et je dis, ah, l'ordinateur peut faire ça. Moi, alors, j'ai appris comment programmer pour ne pas être... C'était trop ennuyeux. Bon, alors, avec cette combinaison de comment enseigner et programmer aussi, mais limite, j'étais à Digital Equipment et je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est pour moi, l'informatique n'est pas codage. Codage n'est pas l'informatique, pas de tout. Alors, codage, c'est bien, il faut avoir des gens, des experts qui savent quoi faire, mais maintenant, on programme très très peu. C'est l'assemblage de choses, il y a des librairies, il y a des choses qui existent. Et quand on regarde, on a deux masters en interaction machine, c'était les deux premiers masters en interaction machine en France. Et on a deux parce qu'il y a un pour les entrepreneurs qui veut créer leur start-up et, ou dans l'industrie, aller dans l'industrie. Et aussi, on forme les chercheurs. C'est deux chemins, mais là, pour eux, la plupart du temps, ce n'est pas les bases d'algorithmes, c'est comment interagir avec l'ordinateur. Et c'est ça qui est important. Alors, j'ai préparé un talk qui n'est pas... Bon, moi, je ne suis pas experte. Bon, j'ai travaillé plusieurs fois dans les projets avec les enfants et des choses, et on a créé plusieurs systèmes interactifs. Mais moi, je pense que c'est important de réfléchir un peu où nous sommes pour l'informatique. Alors, j'ai choisi de faire un peu l'histoire de l'informatique, de la perspective de ce que j'appelle... Bon, un autre domaine qui est l'interaction en machine. Et c'est l'homme dans cette boucle qui est le plus important. Alors, je continue. Alors, je suis directrice de recherche à l'INRIA. L'INRIA, c'est le centre de recherche en France pour l'informatique. Et la plupart de mes collègues sont les mathématiciens. Moi, je suis psychologue. C'est pas la même chose. Et bon, on verra. Ils me pondent un peu des fois comme... la folle américaine, mais bon, ça va, ça marche. Et comme j'ai dit, on travaille avec l'interaction en machine, human-computer interaction, et ça, c'est la source le plus grande de jobs dans le monde maintenant. Faut dire, Google, Apple, Facebook, il y a un coût un peu moins aujourd'hui, mais bon. Mais toutes les grandes entreprises, ils sont en train d'embaucher les gens avec cette expertise. C'est là qui a créé toute cette énergie, tout ça. Et c'est pas le codage, ça fait 50, 60 plus d'années avec le codage. C'est la partie interactive et comment gérer cette interaction entre l'être humain et l'ordinateur qui est important. Et savoir ça, c'est la partie, je pense, est important d'enseigner maintenant. Et si on commence avec le codage pour les enfants jeunes, c'est pas ça. Puis bon, on arrive. Ok, ça c'est un peu, on fait plein de choses. Je vais pas expliquer tout ça. Sauf, on fait les techniques d'interaction, on fait la communication médiatisée, on fait la conception participative. Ça veut dire qu'on travaille avec les utilisateurs, les êtres humains, on travaille vraiment avec eux pendant tout le processus. Et ces techniques-là, ce qu'on fait dans nos masters, sont les choses qui sont prises vraiment dans les entreprises, parce que c'est ça qui rend les systèmes interactifs utiles. Et aussi, on fait des plateformes pour créer ce type de choses. Alors, j'aime ça parce que ça, c'est un iPad. Et voilà, ça marche. C'est qu'on appelle un cutting board. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et ça me gêne un peu si on parle souvent avec le matériel. C'est pas, ça change sans cesse. Le iPad, bon, on a vu il y a 30 ans, ça fait dans la recherche, c'est vieux pour nous, on a déjà vu, c'est commercialisé, c'est bien. Mais la partie qui change, c'est l'interaction avec. Et là, on ne peut pas faire ce genre de choses maintenant avec les ordinateurs, les logiciels, ce qu'on a. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appropriation. C'est quelqu'un qui a interprété un peu plus directement l'idée de cutting board dans son iPad. Mais ça marche. C'est une surface solide qui marche. Alors, la question, c'est comment on peut faire, comme chercheur, on regarde comment faire le logiciel dans une manière où on peut vraiment interagir avec. Alors, et ça, c'est juste, j'aime beaucoup ça. J'ai fait un truc récemment avec un artiste, j'ai expliqué ma recherche et elle a interprété c'est que les mélanges d'informatique dans le monde réel. Et ça c'est, je trouve ça une chose qui est bon. Enfin. Alors, première chose, et ça, j'ai passé plusieurs années à l'Université de Paris Sud comme vice-présidente de recherche et j'ai représenté informatique avec mes collègues en physique, biologie, chimie, tout ça, les autres sciences. Et ce que j'ai bien compris, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce que ça veut dire l'informatique. Alors, en anglais, on dit computer science, et ça, c'est la source d'un problème. Alors, si on regarde l'astronomie, est-ce que ça, c'est la science d'un télescope? Non, pas du tout. C'est la science de l'univers. Alors, très bien, bon, on dit qu'est-ce que c'est la biologie? Est-ce que c'est la science du microscope? Pas du tout, c'est la science de la vie. Alors, si on regarde, on pose la même question, vous voyez où je suis en train d'aller. Alors, est-ce que l'informatique, c'est la science de l'ordinateur? Non, pas du tout. C'est la science de l'information. Et regarde cette image-là, on voit l'ADN. Alors, il y a un lien entre comment on représente l'information et le monde physique, le monde réel. Et ça, c'est important parce que les biologistes apprennent plein de choses des informaticiens et aussi les informaticiens apprennent plein de choses des scientifiques naturels. Et cet aller-retour, c'est très intéressant. Alors, moi, je ne veux pas arrêter là parce qu'on peut arrêter là et dire, bon, c'est les algorithmes, ça, c'est les recettes. Mais c'est statique. C'est statique. C'est pas que le codage, c'est l'interaction avec cette information qui est plus importante. C'est pas toute seule. La raison que c'est important, c'est parce qu'il y a des êtres humains dans le bout qui interagissent avec cette information. Et ça, c'est vrai avec Google. Ça, c'est aussi vrai avec mon laptop, avec mon téléphone, tout ça. Et si on regarde comment en faire l'enseignement pour les enfants, on pense comme mon prof qui m'a enseigné comment faire une série de Fibonacci. C'est rien à voir avec un être humain. Rien à voir. La partie intéressante, c'est comment faire quelque chose interactif. Tout ce qu'on fait, vraiment, à la fin, il y a un être humain qui a besoin de cette information. Alors, pour moi, créer un curriculum pour les enfants, il faut commencer avec eux et leur interaction avec cette information. Et je suis d'accord avec le fait qu'on n'a pas, c'est pas nécessaire d'avoir le matériel du dernier cri, pas du tout, mais la partie est importante qui n'est pas ça, mais c'est cette partie interactive. Et ça, bon, pas cher. Bon, bref, ça c'est mon domaine, interaction machine, j'insiste un peu, c'est l'interaction qui est la partie la plus importante avec l'information. Alors, si on va interagir avec un ordinateur, comment le faire? Il y a à peu près trois possibilités. On peut interagir ce qu'on appelle la première personne. C'est moi, et là, c'est mon outil. J'ai un stylo, ça c'est un outil, sans ordinateur, mais c'est un outil. Et comme être humain, on est très très fort à utiliser les outils. Je veux dire, je ne vais pas parler de ma recherche, mais c'est ça le centre de ce qu'on fait, c'est d'essayer de repenser les systèmes interactifs pour vraiment être plus proche de comment les êtres humains interagissent avec le monde, avec les instruments. Mais bon, ça c'est une partie, ça existe déjà et on peut faire plus. Deuxième chose, et il faut dire, ça c'est la perspective interaction machine. On commence avec l'utilisateur et le but c'est augmenter les capacités de l'utilisateur. Deuxième possibilité, ce qui est intéressant aussi, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou machine learning, c'est on délégue les tâches à l'ordinateur. Et dans un sens, réfléchir un petit peu de Google. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des algorithmes super puissants derrière. Je pose une question et Google donne une réponse. En fait, tonne de réponses. Beaucoup, beaucoup. Des pages. Trop. Alors, ça c'est bien, mais il y a quelque chose d'intéressant, ce que Google a fait. Il a fait un petit partenariat entre l'utilisateur et le système. C'est pas juste, il faut taper quelque chose et à la fin, il fait une recherche et revient avec la réponse. On commence à taper, il dit, ah, vous avez déjà recherché ça, alors je vous propose plusieurs possibilités. Il y a aller-retour entre l'utilisateur et le système d'intelligence. Il n'y a pas assez de ce genre de choses. Si on parle avec les gens qui font le machine learning, la plus tard, temps, on parle de human in the loop, ça veut dire l'être humain dans le boucle, leur but est d'augmenter l'algorithme, pas l'être humain. Alors nous, on parle de l'ordinateur dans le boucle, parce que pour nous, on veut que l'utilisateur reste en contrôle et délègue les tâches, mais ne sont pas contrôlés par l'ordinateur. Aussi, ça c'est un domaine où il y a plein de choses à faire par rapport à la recherche. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle la troisième personne, c'est l'ordinateur comme un médium de communication. Alors Skype, des choses comme ça, mais tous les téléphones, il y a tous pour connecter les êtres humains à distance ou même ensemble, mais c'est un médium de communication. Alors ça, c'est trois perspectives pour interagir avec un ordinateur et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça quand on parle avec les enfants, comment eux, ils peuvent interagir. Et je peux dire que pour un enfant, le premier et le troisième sont les choses plus intéressantes. Parce qu'ils peuvent contrôler quelque chose, ils peuvent communiquer avec leurs potes. Si le système fait quelque chose de magique pour eux, ça part, mais... C'est comme les petits robots, les chiens, on a acheté, mon fils, à l'âge de 10 ans, il a insisté, il faut avoir ce petit robot chien, super pour une demi-heure, et après, bon. Alors, mais, des choses plus, le Lego, ça marche. Bon, bref, je dis juste pour dire que Hollywood a déjà nous enseigné comment réfléchir. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est deuxième et troisième, je pense. HAL, c'est à la fois une intelligence artificielle très puissante, mais en même temps, c'est un médium de communication avec l'être humain. Et on a aussi Iron Man, parce que ça, c'est l'être humain augmenté. Bon, on peut faire ça. Voilà. Alors, comment faire ce type de choses? On peut complexifier les choses. Ce qu'on arrive, c'est en fait ce qui se passe maintenant. On peut avoir le pouvoir d'un système, la puissance ou la simplicité, et souvent il y a un courbe, il y a un compromis, un trade-off entre les deux. Alors, la question pour nous comme chercheurs, c'est comment bouger cette courbe, comment trouver les moyens de faire quelque chose qui est assez simple, mais plus puissant, ou quelque chose de très puissant, mais qui est plus simple à utiliser. Et bon, il y a toute une discussion par rapport à la recherche, ce que je ne vais pas faire. Bon, alors, si je reviens à la question pour aujourd'hui, est-ce que l'informatique, c'est pour apprendre comment la mathématique appliquée ou les algorithmes? Bon, c'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est derrière une partie, mais ça ne suffit pas de tout. Et ce n'est pas la partie la plus importante. Il ne faut pas oublier que je commence comme psychologue. Quand je regarde les ordinateurs, je suis un peu comme vous, c'est comme philosophe. On ne commence pas dans le même endroit que la plupart de mes collègues en informatique. Alors, je vais faire juste un peu d'histoire et je vais voir. Deborah, il faut me donner un peu de combien de temps parce que je peux continuer trop longtemps.
Encore une vingtaine de minutes.
Ok, c'est bon, je vais... Ok. Alors, c'est intéressant de savoir que la première personne qui a fait, le premier programmeur, c'est une femme, Ada Lovelace, et elle était dans les années 1840, et elle a fait vraiment un système de calcul. Et la raison qu'ils ont parlé de programmeur, c'est parce que c'était programmé quelque chose comme ça. Elle a parlé pas de programme, elle a parlé des notes, mais les notes très systématiques pour capturer les algorithmes. Après, ce qui est intéressant, c'est dans les années 40, dans la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des programmeurs professionnels étaient des femmes. Et ils ont contrôlé les machines comme ça. Ça, c'est ENIAC, je pense que c'est 45, quelque chose comme ça. Alors, je suis, il y a un certain truc, juste pour ne pas oublier qu'il y avait des femmes dans cette entreprise. J'aime beaucoup Admiral Grace Murray Hopper, admiral dans les marines aux États-Unis, assez haut niveau. Elle a inventé COBRA. Pourquoi ça, c'est intéressant? C'est parce qu'elle était la première personne qui a dit on peut communiquer avec les ordinateurs avec les mots, pas avec les chiffres. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, tous les langages de programmation utilisent les mots. Mais elle a dit, il faut le faire. Et ses collègues, tout mal, a dit, ah non, c'est ridicule. C'est l'ordinateur, il faut parler dans le concept de l'ordinateur. Il faut que l'être humain change leur truc pour apprendre comment ça marche l'ordinateur. Et elle a dit, ah non, de faire l'inverse. Et on est beaucoup plus productif si on prend la perspective de l'utilisateur. Ce que j'aime beaucoup avec elle, bon, ça c'est comment programmer à l'époque, mais moi j'ai commencé un peu comme ça aussi. J'ai beaucoup aimé ça parce que, bon, c'est bien. Elle a aussi trouvé la première bug. Bon, ça c'est vraiment dans son cahier de laboratoire et ça c'est le first computer bug. Bon, en même temps, il y avait Vannevar Bush et il a écrit un article qui s'appelle « As We May Think ». Il a proposé un système MEMEX et c'est lui qui a vraiment influencé beaucoup de monde parce que, regarde, il a des tablettes. Regarde, des tablettes. 4945. C'est bon. Après, 63, il y a un système qui marche. Ça, c'est Ivan Sutherland, Sketchpad, et on peut dessiner sur l'ordinateur. 63. Et il y a un système, En fait, c'est plus puissant que la plupart des choses qu'on a sur les ordinateurs ici, parce qu'il calcule des choses, il s'appelle beautification, on peut faire une trace et après dire, bon, calculer la moitié, faire quelque chose, tout ça, c'est super puissant. Pour un ingénieur, c'est exactement ce qu'il faut. Là, j'ai mis, parce que c'est aussi très, très, très important, c'est Seymour Papert, 67, et il a créé Logo. Et là, c'était la première fois que les enfants peuvent vraiment interagir avec un ordinateur. Et mon collègue à MIT, Hal Abelson, a travaillé avec lui et ils ont créé ce qu'ils appellent Turtle Geometry. Mais c'est la mathématique de la perspective de l'utilisateur. Bon, l'enfant joue le petit tortue qui bouge, mais en fait, il comprend avec un objet physique et il joue tortue, il plays turtle pour programmer. C'est ça son fait. Et en fait, alors je saute juste rapidement à ça, parce que après, les gens qui ont créé Scratch, moi j'étais à MIT dans l'époque de Boxer, c'est un système sur un Lisp machine, super intéressant comme système. Et mes collègues, Mitch Resnick, qui était maintenant prof à MIT, et il fait Scratch, mais il y avait Lego Mindstorms et toute la série qui vient de ça. Alors cette inspiration, excusez-moi pour sauter, c'est pas gentil. J'ai fait un truc en ordre chronologique, et ça c'est un exemple. On fait un plan d'une présentation, et après, on a une idée, je vais changer, et le système n'est pas fait pour moi de changer d'avis. Bon, bref, on essaie. Alors, après, il y a quelque chose qui s'appelle NLS Augmente. Et ça, en 68, Doug Engelbart a créé la souris, on voit tous, interaction bimanuelle, qui commence à être arrivée maintenant. Et il a aussi un système de vidéoconferencing efficace, qui marche. Ça, c'est important. Alors, on saute. Il y a aussi VisiCalc, que j'aime beaucoup parce que ça, c'est un autre moyen de regarder la programmation. La raison Dan Bricklin a fait le VisiCalc, c'était parce qu'il était à Harvard. Et à l'époque, il faut prendre un crayon et un grand effaceur. Et on fait les chiffres comme ça, et après on calcule le total, et si on fait une petite erreur, il faut effacer, refaire et tout ça, c'est super ennuyeux. C'est un peu comme moi quand j'ai essayé de faire les choses et lire des trucs. Alors, l'ordinateur peut faire des choses ennuyeuses pour moi, super. Mais ce qui s'est passé là, il a créé quelque chose, peut-être par hasard, mais il a fait une grille. Et il y a des lignes et des colonnes. Et un système où chaque cellules peuvent référencer les autres. Et on peut mettre les petits morceaux de code dans chaque morceau. Et avec ça, les utilisateurs, ça veut dire le grand public, a révolutionné le business parce qu'ils ont créé le what if programming, budgeting. On fait un budget, on fait bon, ok, pas seulement tout est là, quelles sont les sommes à la fin, mais qu'est-ce qui se passe si je change celui-là ou je change ça? Alors, il a créé un système interactif, c'est critique, pour réfléchir. C'est une aide pour le cerveau, pas seulement un truc pour calculer. Alors, si on regarde rapidement, ça, tous les ordinateurs, ce qu'on voit maintenant, sont influencés par ça. Ça, c'est le Xerox Star, le Xerox Park. C'était un système commercial en 81. Il y avait des folders, les trash cans, toutes les choses comme ça. C'était un système sur un Lisp machine, pour vous le savez, et il a créé le Graphical User Interface, le GUI. Et la raison Xerox a fait ça, parce que c'était une entreprise peur des ordinateurs. Peur des ordinateurs. La raison, c'est le paperless office, le bureau sans papier. Parce que eux, ils gagnent tout l'argent avec les imprimantes et les photocopieuses. Et s'il n'y a plus de papier parce qu'il y a les ordinateurs, c'est pas... En fait, quand ils ont créé ça, ils ont augmenté par je ne sais pas combien de millions de fois l'utilisation du papier, parce qu'on imprime sans cesse. Voilà. Ce qui est intéressant et problématique pour nous en interaction machine, c'est que le Xerox Star était créé pour quelqu'un. Ils ont un public. Et le public, c'est ce qu'on appelle un secrétaire exécutif. C'est la dame, et normalement c'est une dame, qui travaille pour le président ou le vice-président. Et en fait, il donne à elle quelque chose à faire. Elle tape. Et voilà, et ça c'est la raison que tout ce qu'on fait dans n'importe quel domaine, on a des folders, on a des fichiers, on a cut and paste, parce qu'à l'époque il y a des ciseaux et on coupe et colle tout ça, et aussi les poubelles. Mais c'est intéressant parce que tout ce système-là était fait pour copier, pas créer. Et ça c'est très intéressant parce que les logiciels maintenant reste toujours impliqué dans ce problème. Alors, le challenge, le défi, c'est pas comment faire quelque chose où les gens peuvent coder, parce que ça, c'est un bas niveau, mais comment faire des choses où les gens peuvent créer plus facilement ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça, je pense, que les enfants doivent apprendre et que nous, dans l'industrie, dans la recherche, doivent fournir aux gens. Alors, comment avoir ce genre de choses? Alors, moi, on commence avec ma carrière ici. Ça, c'est le système qu'on a fait quand j'ai commencé à Digital Equipment, à IBIS. Ça, c'est le premier système avec la vidéo sur l'ordinateur. Ce n'est pas bien connu. On n'a pas fait assez de publicité parce que c'était très cher. Mais on avait les disques comme un DVD. Imaginez un DVD avec une demi-heure de vidéo. Et ça coûte 2 000 $ à l'époque, c'était très cher pour faire un truc, alors pas très interactif, mais le logiciel était super interactif et on a fait plein de choses avec. Et là, c'est juste quelque chose que j'ai fait. J'étais à Digital, responsable pour une équipe de recherche et aussi avant c'était une équipe de logiciel, software development. Et là, à MIT, j'ai fini ma thèse et on a fait plein de choses interactives et on a vraiment exploré comment utiliser la vidéo sur ordinateur pour l'apprentissage. Et je suis super fière parce que l'un des stagiaires dans mon équipe, il m'a envoyé un email il y a 4-5 ans et il a dit « Wendy, après 5 startups, maintenant je suis riche. » Il était l'un des cofondateurs de YouTube. Alors, moi, je n'ai pas profité, mais au moins... Bon, on peut continuer, mais juste pour dire que le Macintosh était après. Et c'est brillant, vraiment brillant. Steve Jobs était un génie. Mais un génie pas comme inventeur, mais quelqu'un qui a piqué des bonnes choses. Il a fait 2 choses. Il a laissé tomber le fait que le Xerox Star était un système avec l'Internet. Ethernet était inventé par Xerox. Alors, c'était un système tout seul et avec 2 applications. Et quelqu'un peut arriver, s'asseoir et apprendre quoi faire. Maintenant, c'est difficile. On ne peut pas faire la même chose avec les ordinateurs aujourd'hui. Mais à l'époque, n'importe qui peut arriver et faire des choses. Et là, c'est intéressant. Bon. J'ai parlé de Boxer, c'est un système très intéressant parce que c'était en même même époque et c'est un système où on peut dessiner mais aussi programmer, tout est mélangé et on ne voit plus ce genre de choses. Il y a aussi quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous connaissez HyperCard, mais ce n'est pas terrible que ça a disparu parce que là c'était quelque chose où n'importe qui peut à la fois programmer et créer, tout est mélangé d'une manière très simple. Et c'était Steve Jobs qui a tué ça, pour des autres raisons. Mais bon, c'était un truc super. Alors après, on fait les Media Space, ça c'est des choses, c'était 90, Xerox, et moi j'étais à Europark et on a fait ça. On a aussi, c'était la même époque que le World Wide Web était créé. Ce qui est intéressant, ça c'est un défi par rapport à ce type d'ordinateur. c'est pas très puissant au niveau d'interaction, au niveau style d'interaction. C'est très statique, il y a une page avec des trucs. C'est pour la consommation d'informations, pas la production d'informations. Mais en même temps, c'était worldwide, international. Et c'était fait par les physiciens parce qu'ils avaient besoin de ça. Et les gens dans les entreprises, à DEC, IBM, Apple, ils n'ont pas compris. Ils avaient toute la technologie, mais ils n'ont pas compris les besoins des utilisateurs. C'était les utilisateurs qui créaient ça. Il y a Ubiquitous Computing, je dis ça, c'est aussi au même époque. Et ce truc-là, il y a un smart board qu'on voit, toutes les tablettes, tout ça. Ça a marché, hein. On a utilisé ça, j'étais à Xerox à l'époque, on a utilisé ça. Et voilà. On a fait quelque chose, ça c'est Pierre Wellner dans mon équipe, et on a fait quelque chose qui s'appelle le Digital Desk. On a projeté les informations. En fait, c'était un live board cassé. Alors, c'est bon, il faut utiliser quand même. Alors, projeter sur le papier et rendre le papier interactif. Et j'ai fait toute une série de projets. Bon, je n'ai pas le temps. Voilà. Mais on a fait un truc, on a proposé l'idée de la réalité mixte en 93. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec mes collègues Pierre Wellner et Rich Gold à Xerox. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est à choquer le monde. C'était pris comme le meilleur numéro spécial de n'importe quelle revue en sciences, toutes les sciences, parce qu'on a dit, c'est pas nécessaire de faire tout sur un clavier. Sur l'ordinateur, on peut mélanger l'ordinateur avec le monde réel. Bon, il y a plein de choses, je peux continuer, mais je n'ai pas le temps. Alors, je vais juste dire qu'on a fait plein de trucs avec le papier interactif. Au début, on a simulé, et après, on a fait avec le vrai papier augmenté. Et maintenant, on va présenter la semaine prochaine, on a un système qui s'appelle Stretchy. On utilise le print electronics, on peut imprimer avec un screen printer, avec l'encre électronique, on peut créer les choses et on peut avoir un petit écran, pas très puissant, mais un écran qui marche, des détecteurs de mouvement, des boutons, tout ça, et on peut faire une série. Et c'est dans un matériel stretchy. Et en silicone, on peut porter, on peut faire plein de choses, tout ça. Alors, tout ça avant, ça fait 30 ans de recherche sur le papier interactif, mais maintenant on est vraiment là, on peut vraiment faire plein de choses. J'avais, bon, ça c'est des anciens systèmes, des choses qu'on a fait. Non. On a travaillé avec les contrôleurs et rien. Ça c'est, je vais arrêter là parce que je pense que je dépasse mon temps, mais juste pour dire, je suis arrivée dans une salle de contrôle, cerveau de psychologue, dans un monde informatique. Et eux, ils ont dit, il faut remplacer les strips papier parce que c'est l'ancienne technologie, on ne s'intéresse plus, on va faire des choses modernes sur l'ordinateur. Mais pour eux, il n'y a pas de distinction entre clavier, écran et l'informatique. Parce que ce qui est très intéressant, c'est le fait que c'est souple. On peut écrire tout ce qui se passe dans le papier, et c'est un système très très efficace. Il y avait 50 ans après la Deuxième Guerre mondiale, sans un seul accident, il continue en France, il y a toujours les sur papier. J'ai plus l'accès maintenant après septembre, mais bon. Mais nous, on a travaillé avec, j'ai travaillé pour 18 mois avec une équipe de contrôleurs aériens. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est d'augmenter leur strip papier. Ça veut dire, on a créé un système, c'est ancien, hein, c'est un truc bricolé avec mes thésards, mais on a le radar, on peut, par exemple, taper le strip papier pour voir cette vol dans l'écran. Et je peux écrire et tout est capturé. Alors, ça c'est bien. Et aussi, je peux communiquer avec un autre secteur juste en tapant le secteur et tout ça. Alors, tout est là. C'est beaucoup plus efficace. Alors, je suis désolée, mais à la fin, c'était... Bon, j'arrête. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est... Alors, ça, c'était fait par mes collègues à Toulouse. Ils ont pris ce qu'on a fait il y a plus de 15 ans. Ils ont créé un système qui s'appelle Striptic, tout financé par le gouvernement français et maintenant utilisé par les Anglais parce que c'était refusé par les Français. Mais c'est un système très efficace pour interagir. Alors, pour moi, c'est l'informatique. Mais avec la perspective du monde physique intégré avec le monde informatique, et ce n'est pas le dernier cri de truc. On peut faire des choses bon marché, interactives, dans une manière intéressante. Alors, je m'arrête là. Parce que...